dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Bonjour Monsieur Edmond, je m'ennuie bien. Et dans la place, nous sommes ensemble pour une heure d'actualité, d'humour, de drôlerie.
L'actualité à fond, l'actualité.
Voilà. On va bien rire.
Bonsoir.
Ah, c'est bien, il y a Madame Ginette, c'est l'essentiel.
Ah bah j'ai été annoncée, heureusement.
Allez, on peut s'arrêter là. Bonsoir à tous, ciao. Non, alors Madame Henriette m'a mis dans les livres, entre les mains, enfin l'inverse quoi. Entre les mains un livre qui s'appelle « La révolution industrielle du Moyen-Âge » de Jean Jumpel. Alors comme ça, ça ne fait pas rêver. Pour commencer, je m'ennuie bien. Et pourtant, au cœur de cet ouvrage se cachent des extraits absolument incroyables. Et ça va vous intéresser, Madame Ginette, puisqu'il parle des sorcières.
Et puis c'est un extrait d'un ouvrage didactique de l'époque hein, qui nous apprend à reconnaître et à traiter les sorcières.
Voilà.
Ça bon. Va être très instructif.
C'est écrit par des inquisiteurs. Hein. Je crois que c'est un ouvrage à quatre mains.
Oui.
Et deux cerveaux,
deux
même
inquisiteurs.
Si ce n'est pas évident.
Et donc, je vais vous lire un petit extrait du Malleus Maleficarum. Alors, qui parle d'un truc très précis, de la virilité. Et ça tombera bien parce qu'on salue tous nos amis masculinistes qui nous écoutent.
Ils sont nombreux.
Ils sont nombreux.
Allez bien vous faire cuire le commun. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre virilité? Alors, vous pouvez bien sûr mener une attaque éclair contre l'Iran. Ça, c'est possible. Mais à l'époque...
Si vous avez 5 ans.
Ouais, à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Donc, que vous conseille le Malleus Maleficarum? Pour ceux qui, justement, voilà...
Eh bien, oui, parce qu'on sait d'où vient le problème. Quand
évidemment,
on est... Au Moyen-Âge, si on perd sa virilité...
Rapprochez-vous des sorcières, parce que, ouvrez les guillemets, parfois, elles collectionnent, et là je vous lis le livre, hein, un grand nombre d'organes sexuels mâles, 30 ou 40, rassemblés dans un nid d'oiseaux, ou enfermés dans une boîte, où ils se meuvent comme s'ils étaient vivants, et mangent de l'avoine et du blé. Cela a été vu par de nombreux témoins et c'est une affaire communément rapportée.
Tout le monde le sait.
D'ailleurs, un certain bonhomme qui avait perdu son membre alla voir une sorcière connue, espérant évidemment se le faire restituer. Parce que bon, quand même. La sorcière ordonna aux plaignants de grimper dans un arbre, hein, puisque bon, comme ils sont stockés dans les nids, bon, et d'y prendre dans un nid, parmi d'autres, le membre qui lui conviendrait le mieux. « Oh, je ne sais lequel choisir !» Non, c'est pas ça. Alors, et comme il tâchait d'en choisir un grand, allez savoir pourquoi, la sorcière lui dit « Mais enfin, ne prenez pas celui-là, il appartient à un curé de la paroisse. » Voilà, alors ceux qui aiment ce genre de littérature, vous pouvez vous procurer le Malleus Maleficarum. Voilà. Ça a l'air très instructif, effectivement.
Alors, c'est un petit extrait de la révolution industrielle du Moyen-Âge qui, en fait, vient illustrer le retour de l'obscurantisme après un âge d'or intellectuel, au Moyen-Âge, du XIe au XIIIe siècle à peu près. Mais oui, Madame Ginette a retrouvé effectivement l'illustration correspondante et d'époque.
Au Malleus Maleficarum
qui montre qu'en effet, et c'est un fait connu de tout le monde à cette époque-là, les sorcières conservent les membres masculins dans des nids.
Et leur donne de l'avoine pour qu'ils ne meurent pas tout de suite.
Si j'ai bien vu, on a même un arbre sur l'illustration.
Oui, c'est ça, un arbre à zizi, exactement.
Écoutez, ne faites pas cela chez vous, évidemment. Ouais, ne faites pas cela chez vous, merci.
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, écoutez.
Ouais, ben, bah, Bon, si vous êtes bien dans Je m'ennuie bien, on est désolé.
Voilà ce qui arrive.
Ça part très mal.
Voilà ce qui arrive et on en parlera plus tard dans l'émission. Quand on ne veut plus croire à la... Enfin, quand on n'accorde plus crédit à la science. Hein, voilà.
Exactement.
Vous voyez, Madame Henriette, vous disiez que l'âge d'or, tout ça, en Europe, je m'étais dit, bah, je vais peut-être faire le même bouquin, l'âge d'or, avant la décadence complète des USA. Mais en fait, il n'y a pas eu d'âge d'or. Donc bon, c'est pas la peine de faire un bouquin sur la décadence actuelle.
Ça vaut peut-être le coup de le rééditer en texan. Si ça se vendrait.
Allez.
Peut-être.
Allez, juste une petite brève toute fraîche sur notre ami Donald qui recevait...
Ah oui, c'est ça, votre ami.
C'est mon ami, moi je l'aime beaucoup.
Et vous serez gentil de ne pas l'amener aux soirées. Hein.
Il avait une cravate vraiment ignoble. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, elle est en vacances ou quoi? En tout cas,
Sanaé... Pourquoi ça serait sa responsabilité à elle?
La cravate quand même. Oui, il a essayé de la sortir à sa coiffure, peut-être, c'est ça. Alors, Sanae Takaishi, bon, moi, je ne l'aime pas du tout, cette femme, hein, droite conservatrice.
Ça tombe bien parce qu'elle ne vous aime pas du tout
donc,
non plus.
Donc, première ministre japonaise.
Voilà, c'est ça, je pense que la réciproque soit vraie.
Mais elle a quand même vécu un moment très, très désagréable. Bon, alors, elle allait voir son ami Donald Trump. Normalement, ils sont tous les deux à l'extrême droite, donc ils étaient contents de se rencontrer.
Elle nous aurait demandé avant, on l'aurait prévenu.
On lui aurait dit, hein.
Et là, il y a un pauvre mec qui pose une question à Donald Trump. Ah ouais, mais quand même, vous avez vraiment attaqué l'Iran par surprise. Est-ce que c'est digne d'une nation civilisée? Et là, il fait son speech habituel, puis il lui dit non, et puis de toute manière, excusez-moi, mais au niveau des surprises, qui pourrait mieux répondre que le Japon? Hein? Non, parce que qui c'est qui nous a pas prévenu pour Pearl Harbor? Et la ministre est à un mètre d'elle, hein? À mettre de lui, pardon, voyez. Et alors, elle sait qu'elle est filmée, donc elle essaye de garder une contenance, mais bon, elle tire quand même la tronche. Hein.
Alors attention quand même, attention avec l'honneur bafoué, hein, ça peut mener loin.
Oui.
Allez, on reste du côté de l'Asie avec ce titre pour Madame Henriette, Corée du Nord. Elle nous en parlait la semaine dernière, donc je me suis dit, je vais aller voir. Kim Jong-un supervise un essai de lance-roquette. Ouvrez les guillemets. Une arme très meurtrière, mais attrayante. Et oui, et oui. Il faut le savoir.
Quand on vous parle attrayante.
Ah, je sais pas.
C'est le traducteur a dû se gratter la tête un moment. Alors écoute, avant de choisir le terme.
Mon petit gars, tu vas prendre ton lance-roquette et tu vas me dégommer cet arbre à zizi là-bas. C'est pour ça que c'est attrayant, voyez. Non, je sais pas. C'est. Alors ce titre aussi qui vous allez voir, c'est le choc des cultures un peu. De Picasso à Pikachu, le marché du dessin s'envole. Ah ouais. Ok.
Petite panne d'inspiration.
Je sais pas.
C'était la journée mondiale de la titraille.
Ouais, je pense. Celui-là aussi qui est quand même magnifique. Affaire de la tête de cochon, 2 points. Un associé de la femme de Christian Estrosi mis en cause.
Ah oui, okay. J'adore. Le mec, il est allé chouiner partout qu'on lui avait une tête de cochon chez lui. En fait, c'est lui qui l'a mise.
Ah non, mais ils sont forts.
C'est surpuissant.
Alors là, évidemment, le titre ne va rien vous dire, mais je essayais de retrouver la photo. Est-ce que... Allez, je vous donne le titre, puis je vous explique.
Alors, nous sommes à la radio. Hein.
Oui, mais justement,
je tiens à vous le préciser.
Une voiture finit sa course dans la façade d'un restaurant. Alors là, bêtement... Vous vous imaginez, comme dans tous les films, la voiture qui a traversé la vitrine, quoi, voilà, comme dans les films.
Et qui se gare entre la deuxième table et le comptoir.
Eh bien, allez voir la photo. Je ne sais pas comment a fait le gars. Alors, il a fini dans la vitrine, mais par contre, la voiture est plantée. Comment dire, elle a le pare-choc droit, et il y a le pare-choc arrière qui est en l'air, et tout ça est dans la vitrine du restaurant.
C'est amusant. Alors, ça se passe à Esther Technopole, à Limoges, et ce qui est amusant, c'est que le restaurant s'appelle Au Bureau. Eh bien non, on se gare mieux pour aller au bureau.
Non, mais c'est surtout que je ne sais pas comment il a fait pour planter la voiture. Enfin, je ne sais pas. Il y a des trucs incroyables qui se passent.
Après... Si on stationnait les voitures en position verticale ainsi qu'il l'a fait, on gagnerait
de la place, c'est sûr, hein.
Le stationnement ne serait plus un problème dans nos villes.
En Saône-et-Loire...
C'est peut-être une source d'inspiration pour les candidats aux municipales.
En Saône-et-Loire, et nous pensons très fort à eux, les habitants de Saint-Vallier n'ont plus de courrier à cause d'un chien errant.
Oh, il a fait peur au facteur.
Eh ouais, elle veut plus y aller. Ben... Ça fait 2 semaines qu'elle veut plus aller là-bas. C'est comme ça. Allez, un petit truc qui fait bien plaisir, évidemment. On salue la formidable performance de Louis Sarkozy à Menton, quand même, qui a réussi à avoir 2600 voix alors qu'il passait sur toutes les chaînes de télé en continu et tout, quand même. Ah là là là, troisième.
Oui, mais bon, forcément, il se présente dans une ville où tous les autres candidats, ou à peu près, ont le même programme que lui. Alors, c'est pas facile non plus.
Alors, il faut dire que dans les 4 premiers, quand même, c'est que des trucs de droite. Hein. On peut dire que Menton, au moins, ils savent où ils habitent. Hein.
Là,
c'est... Si vous vous baladez avec votre t-shirt CGT, là-bas, faites gaffe. Allez, ce titre magnifique, et là, je vous invite à fermer les yeux pour voyager. Merguez et Guimauve.
Ah, c'était pour ça que vous parliez de la CGT ?
Non.
Pitié, pas ensemble.
Merguez et Guimauve, avec l'éruption du piton de la Fournaise, des Réunionnais font cuire des aliments sur la lave.
Oh, j'adore.
Alors, les autorités de santé publique ont alerté quand même, parce qu'il y a des émanations qui seraient peut-être
Voilà, une rabat-joie dans cette émission, c'est Madame Henriette.
Excusez-moi.
Nous, on est contents d'imaginer les mecs avec leurs petits bâtons aller faire cuire leur guimauve sur la lave en fusion. Eh ben non.
Eh ben oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est toujours embêtant de mourir asphyxié.
Alors, vous voulez jouer au rabat-joie ? 45 millions de personnes supplémentaires menacées par la faim si le conflit au Moyen-Orient se prolonge. Voilà. Vous êtes contente, Madame Henriette ?
Assez peu, mais quand même, j'ai conscience d'être dans une situation plus favorable.
Allez, comme Monsieur Kogan n'est pas là, on va quand même faire un petit hommage à une disparition qui m'a amusé, évidemment. Bon,
oh, super.
Bah, c'est comme ça. Mais non, mais il avait 84 ans. Bon, il a fait un beau parcours. Mais surtout, peut-être vous le connaissez. Michel Racine, paysagiste et historien des jardins, est mort.
Donc, c'est le nom qui vous amuse.
Oui, quand même. C'est un bel
mais
hommage.
Mais quel âge avez-vous, Monsieur Edmond ?
Des fois, je me demande. Mais en même temps, quel âge faut-il avoir pour survivre à ce monde ? Je ne sais pas.
C'est une excellente remarque. Et au moins, vous attaquez pas tous les pays qui vous embêtent.
Non.
Déjà ?
Allez, on va passer la parole à Madame Ginette. J'espère que je ne lui coupe pas l'herbe sur le pied si je parle de ce qui s'est passé dans un aéroport australien.
Normalement, non.
Eh bien, figurez-vous que les voyageurs ont été très surpris par le rayon peluche qu'il y avait dans cet aéroport australien. Parce qu'il y a une peluche qui s'est mise à bouger, qui avait vraiment l'air plus vrai que nature. Et ben c'est normal, parce que elle était vraiment naturelle, puisqu'il s'agissait d'un opossum qui s'était foutu dans le rayon. Alors vous pouvez trouver des vidéos et on voit bien l'opossum avec sa bonne tronche au milieu des peluches.
L'opossum, dans ce pays, c'est l'équivalent des ratons laveurs aux États-Unis et des écureuils en Europe. Voilà, des voyous, des blousons noirs.
Allez, c'est à Madame Ginette, dans Je m'ennuie bien. Elle va nous trimballer aux quatre coins du monde, j'imagine.
Alors, j'ai déjà 2-3 petites choses sur les municipales.
Ah, c'est
notamment...
on va bien rigoler.
Notamment Arcis-sur-Aube dans le Grand Est, 3 listes pour le second tour, bon, jusque-là rien d'exceptionnel, si ce n'est les noms des candidats arrivés premier et deuxième. La deuxième...
Non, ne trichez pas, Madame Henriette, ne trichez pas. Alors attendez, Laurel et Hardy ?
Non. La deuxième, c'est Annie Souka, jusqu'ici, voilà. Le troisième, c'est Antoine Renaud Zelinski.
Ouh là là.
Et le premier, c'est Charles Hitler.
Oh !
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est assez difficile, quand même.
Alors, Hitler avec 2 T et Zelensky avec un E au milieu, mais enfin, IE, pardon, au lieu de E. Mais voilà. Donc, vous pourrez voter, si vous êtes sur Arcis-sur-Aube, pour Hitler ou pour Zelensky.
D'accord.
C'est fun. On voit qu'il y en a qui vont s'amuser dimanche.
C'est ça. Mais il y aura peut-être moins de suspense qu'à Saint-Pierre-du-Mont dans le Calvados. Alors Saint-Pierre-du-Mont, c'est un de ces tout petits patelins, hein, 64 inscrits, 52 votants, 12 abstentionnistes, et 26 voix pour la première liste et 26 voix pour la deuxième.
Non, et mais là, j'ai voilà. envie de dire, c'est il y a une espèce de pari, là. Il y a un pari idiot, y a... on voulait se faire remarquer.
Même pas. Ça a été très, très surprenant.
On fait comme, donc, comme pour les, la Chandeleur, c'est le plus jeune qui se met sous la table et qui dit qui a la première part. Comment on fait?
Bah, on fait un deuxième tour à une voix près, si vous voulez que je vous dise.
Et oui, mais ça va pas marcher, hein, parce que s'ils ont 26-26, même au deuxième tour, ils sont bloqués. Hein.
Bah, c'est un peu ça, en fait, le truc. C'est de se dire, qu'est-ce que ça va donner pour le deuxième tour? Parce que si tout le monde vote exactement pareil, bah, je sais pas comment ils font dans le cas.
Alors, vous avez peut-être des gens qui s'abstiendront plus, qui s'étaient abstenus au premier tour.
Et c'est lui qui va décider. Il va dire, c'est moi qui vais décider.
Ou d'autres qui décideront d'aller passer le week-end chez leur belle-mère.
Faut dans pas ces abuser conditions. Quand même, Madame Henriette, y a des limites, enfin.
Vous savez, certains, pour ne pas accomplir leur devoir citoyen, seraient prêts à tout.
Alors, figurez-vous qu'en regardant les résultats de Menton, et sans mentir, nous nous sommes aperçus avec Madame Henriette que non seulement il y a beaucoup d'abstentionnistes, mais il y a aussi un nombre absolument incommensurable de gens qui ne sont même pas inscrits sur les listes. Donc à mon avis,
ah
si
oui,
on grattait...
Mais pas comme Menton.
Ah non, pas comme Menton, à peu près partout. Et donc si vraiment on grattait sur la représentativité des gens que nous élisons, c'est vrai que ça commence à faire peur quand même là.
Certes, mais je voulais quand même, pour finir une petite page électorale, vous amener à Parthenay.
Parthenay, c'est dans les Charentes.
Oh, il y en a plusieurs des Parthenay, il n'y en a pas un près de Lyon?
Non.
D'accord.
Il
n'y
en a pas un près de Lyon, mais
voilà. Ça me dit quelque chose, Parthenay, oui.
Je me demande si ce n'est pas la patrie d'origine de l'inénarrable Jean-Pierre Raffarin.
Non mais enfin, qu'est-ce que c'est?
Ah ben écoutez, hein, voilà, chacun ses références.
Bon, moi, c'est
Parthenay,
pas grave.
Parthenay, j'ai quand même cherché. Dans les Deux-Sèvres, voilà.
Dans les Deux-Sèvres, autant pour moi.
Les Deux-Sèvres. Donc, alors, il y a eu un bulletin de vote. Alors, évidemment que là, c'est nul, mais c'est presque dommage. Grande affiche avec marqué « Cusco, empereur mégalo, Diverlaine, nouveau lama pour Parthenay ». Avec des visuels du film Cusco de Disney, un des meilleurs Disney qui soit, à mon sens. Et que des citations pour aller avec le programme. Par exemple, économie, 2 points. Ton service vient d'être réduit, on doit faire des coups drastiques et tu as été victime d'un changement de cap. Tu sors du cadre de nos activités. C'est extrait du film.
D'accord.
C'est un hommage.
Voilà. Démographie. Je suis la grande-tante de la cousine par alliance de son frère qui est elle-même ma filleule du côté d'Isma. C'est bien ça, Kronk?
Écoutez, ouais, c'est un joli challenge pour dimanche, ceux qui veulent tester. Plutôt que de voter nul ou blanc, faites un petit
Cusco.
Moment comique.
Votez Cusco,
non, mais
l'empereur mégalo.
Film, mais choisissez un autre film, peut-être, il n'y a pas que celui-là.
Oui. Et je n'ai pas fait que des municipales. Je voulais aussi vous parler de ce qui s'est passé à Wiesbaden, voilà, en Allemagne, j'avais plus le nom du patelin, où un adolescent de 15 ans a voulu rendre service à sa petite amie de 14 ans, dont le collège était situé à 130 km. Et donc, plutôt que de l'abandonner à un train à son triste sort, il l'a amené en volant un bus.
Oui, très bien. C'est parfait.
En volant un bus des transports publics locaux.
Voilà comment naissent les belles vocations. Alors,
conducteur
de bus ou voleur, au choix.
Est-ce qu'il a quand même invité d'autres voyageurs à monter en donnant sa destination?
Alors, a priori, non. Et surtout, la police est très, très surprise parce que le bus était nickel. Apparemment, et ils l'ont intercepté, évidemment, parce qu'un gamin de 15 ans, en volant dans un grand bus vide, ça se voit. Et ils étaient tous séchés parce qu'ils conduisaient super bien.
D'accord, bon.
Le talent.
Peut-être une vocation, en effet.
Le talent. Et je voulais finir en saluant quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais qui est à Limoges, une apparemment célébrité locale, qui est Sandrine Monnerat. Qui vient de reprendre le bar tabac de la Mauvandière.
Oui.
Rue de la Mauvandière, hein, évidemment. En faisant une petite spécificité. C'est-à-dire qu'il y aura un espace, alors c'est un bar tabac presse, et il y aura un petit espace exprès dédié à l'antiquité. Et ça, je trouve ça super cool de faire un petit espace magasin d'antiquité dans un bar tabac.
Elle s'adapte à la démographie locale.
Ouais, j'allais dire une méchanceté, mais non, en période municipale quand même. Non, c'est pas...
D'accord. À l'Antiquité, mais c'est l'Antiquité de la période.
Non, c'est un petit espace où vous pouvez chiner, en fait.
Ah, vous... d'accord. Très bien. Très bien. Bon, eh bien, voilà, vous aurez un bar tabac antiquaire à la Mauvendière.
Voilà.
Dans le bar tabac comme... de la rue Mauvendière.
Ah, c'est...
Autre ambiance, autre projet.
Voilà, voilà. C'est ça. C'est complètement différent. Le concept n'est pas comparable.
Non.
Madame voilà. Henriette, est-ce que Madame Ginette reste un petit moment avec nous pour écouter
Elle ne va malheureusement pas pouvoir, donc elle vous salutationne bien bas et vous enverra des visuels de l'arbre à Zizi, c'est promis.
Dès qu'on l'a retrouvé.
C'est ça.
Attention quand des oisillons tombent du nid.
Très bien, mais je les ferai parvenir à comment il s'appelle, là, celui du jardin, là, comment il s'appelle, pour lui demander comment j'entretiens mon arbre à Zizi.
Alors, vous pensez à Stéphane Marie.
Ah voilà, Stéphane
Marie. Ça suffit, mon idole.
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Parce que là, je suis dépassée oui, alors, par mon arbre à Zizi.
C'est dans l'émission Silence à Pouce et c'est la rubrique Pas de panique où il vient vous aider voilà. Effectivement à aménager votre jardin. Effectivement, comment intégrer un arbre à Zizi dans votre jardin?
Ce serait bon ça.
Jardin anglais, jardin à la française? J'hésite.
J'hésite.
Si je m'ennuie bien, on dit au revoir à Madame Ginette.
À bientôt.
Et à bientôt, bien sûr. Mais écoutez, Madame Henriette, prenez le micro.
C'est à moi, paraît-il.
Faites-nous rêver un peu de poésie dans cette émission.
Je ne suis pas certaine que vous allez beaucoup rêver.
Mais si.
Alors attendez, il faut que je ferme...
Je suis bon public.
Eh bien, il va falloir que vous soyez bon public. Et d'ailleurs, on va parler de service public. Tiens, ça tombe bien. Je suis tombée, par hasard...
Vous n'êtes pas fait mal?
Non, pas du tout, pour une fois. Sur un amusant post sur les réseaux sociaux de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Vous imaginez si on s'amuse?
Ah oui, ça a l'air de bien commencer. Niveau humour, là, je suis à fond.
Mais moi, ça m'a beaucoup amusé.
Oui, oui. Après, vous venez faire des remarques quand je dis que M. Racine... Bon. Enfin...
Et donc, il s'agit d'une nouvelle qui, pour une société, pour une entreprise, a été mauvaise, puisqu'il s'agit d'une amende qui a été infligée à la société Conseil Éco-Environnemental Habitat. C'est manifestement une société de la Haute-Vienne spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, ainsi que la vente et l'installation d'alarmes et d'adoucisseurs d'eau.
C'est voilà. Critique, c'est bien, mais par contre, on voit bien ce qu'ils essayent d'avoir.
Voilà.
Toutes les aides publiques, allez.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a ça fait plusieurs années qu'on a un empilement de réglementations pour que nous soyons un petit peu moins importunés par les démarcheurs en tout genre qui appellent sur nos téléphones à peu près à toute heure de la journée.
Oui, pour nous vendre tout un tas de trucs dont on n'a absolument pas besoin.
Eh ben non, parce que si on en avait besoin, on se laisserait déjà procurer.
D'accord. Et donc, ça ne marche pas du tout, alors?
Alors là, le problème, ce n'est pas que ça ne marche pas. Oui, la réglementation, vous voulez dire.
La réglementation, c'est... Tout le monde se fait appeler en permanence. Hein.
Je ne sais pas pour ce qui vous concerne. En tout
non,
cas...
moi non, je n'ai pas de téléphone, mais bon...
En tout cas... Donc, je suis troublée parce que Madame Ginette continue son activité, même si elle s'est déconnectée. Et elle vient de nous envoyer donc pour l'émission. Et bien sûr, nous alimenterons notre page Facebook avec une très belle illustration médiévale de l'arbre à Zizi. Donc, je continue sur...
Non, mais là, on était. Oui, parce qu'on est perdu, là, Madame Henriette. Restez concentrée.
Je continue donc sur la société Conseil Éco-Environnemental Habitat qui, donc, ne respectait pas la réglementation relative au démarchage téléphonique.
Oh, les vilains.
Et notamment, elle avait fait appeler donc des personnes qui s'étaient opposées au démarchage en s'inscrivant sur la liste Bloctel. Elle avait appelé en dehors des tranches horaires autorisées. Et elle avait sollicité certaines personnes plus de 4 fois par mois. Tout ça est interdit par l'article L223-1 du Code de la consommation.
Mais ils ne savaient peut-être pas.
Eh bien, écoutez, maintenant, ça leur aurait coûté moins cher d'acheter un Code de la consommation, car ils ont été condamnés à la rondelette amende de amende administrative, donc d'un montant de 216 320 euros.
C'est précis au moins, hein. Je ne sais pas comment ils calculent ça, mais c'est...
Ah, ça c'est quand on s'amuse à faire des additions, à la fin, on n'a pas forcément des chiffres ronds.
Bon, ben voilà, voilà. Et ben, qui continue, peut-être on sera moins démarché.
Et donc, ça, même si on peut être fataliste face à ce genre de désagréments récurrents, eh bien, sachez que de temps en temps, des procédures aboutissent.
Merci, Madame Henriette, d'avoir mis un peu de soleil dans nos vies.
Eh bien, je vais en mettre beaucoup moins tout de suite. Attention, le soleil va se coucher. Pam. Je vous parle
vous faites
d'une petite...
bien le soleil qui se couche, vous pouvez le refaire ?
Pam.
Ah ouais. Ah ouais, c'est quelque chose.
Ah bah oui, attendez, il se couche, mais d'un coup, en fait.
Moi, je vais vous faire regarder. Aïe ! Ça, c'est la lune qui tombe.
D'accord. Je vous parle d'une enquête. Une enquête sur la liberté académique. Alors, c'est une...
On est où ?
C'est
dans quel pays ? En France ?
Eh bien, c'est mondial, figurez-vous.
Ah, une enquête mondiale ? Ouh là là.
Exactement. Et c'est mené par une équipe germano-suédoise. Donc, ils ont divers indicateurs et ils éditent le rapport de l'indice de liberté académique. Voilà.
L'indice de liberté académique ?
Oui, eh bien, c'est pour savoir si les chercheurs bénéficient d'un niveau de liberté suffisant pour mener leurs recherches, tout simplement. Alors, c'est réalisé dans 179 pays.
Bah quand même, ah oui, effectivement, c'est...
Oui, c'est assez
c'est costaud.
Ah oui, oui. Eh bien, je dévoile tout de suite le résultat. C'est pas bon. C'est pas bon. Les résultats sont pas bons. Mais pour tout le monde, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait.
Pas de jaloux, les gars.
Alors, si, il y en a qui évidemment se placent dans le peloton de tête. Mais en fait, pour à peu près tous les indicateurs et surtout globalement, eh bien, la liberté académique a reculé, y compris dans des pays où d'habitude elle était assez bien protégée.
Par exemple, la
dernière enquête, la période couverte, c'est la décennie 2015-2025. Et donc, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, les Pays-Bas ou même la Suisse ou même le Canada, ont vu leur liberté académique reculer. C'est pas bien du tout.
Ah ben non.
Le recul le plus spectaculaire, c'est évidemment...
Les USA.
Comment l'avez-vous deviné ?
Ah ben, vu ce qu'a fait le petit Donald quand il est arrivé, bon ben oui,
alors,
forcément.
Y a...
Mais après, il y a la pression générale, ambiante. Hein.
En fait, c'est pas arrivé d'un coup hein, quand même,
mais en effet,
il y a un recul très fort. Donc l'indice a chuté de 50% entre 2015 et 2025, nous apprend cet article de Laure Belot dans Le Monde, donc sur la liberté académique. Alors pour la France, c'est pas parce que peut-être ça
c'est
vous intéresse. Eh ben, en fait, la liberté académique ne progresse pas et elle ne se dégrade pas fortement.
Voilà, pas fortement.
C'est ce qu'on apprend. Mais bon, ça se dégrade tranquillement.
Oui, ouais, voilà. Il n'y a pas de moyen, sinon on ferait plus fort.
Ça ne prend pas tellement en compte les moyens, en fait.
Non, mais je rigole. Par contre, il y a bien l'air d'avoir plus de pression sur les chercheurs. Hein.
C'est la les indicateurs sont au nombre de 5. La liberté de recherche et d'enseignement, la liberté d'échange et de diffusion universitaire, la liberté d'expression académique et culturelle et l'autonomie institutionnelle des universités.
Ah, donc vous voyez, là, c'est bien les moyens quand même.
Non, l'autonomie institutionnelle, pas économique.
Ouais, mais bon, en général, sont liés.
Ce qu'ils appellent l'autonomie institutionnelle, c'est...
Il y a un président d'université, machin.
C'est qu'il n'y ait pas d'ingérence, en fait, du pouvoir.
D'accord, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un pays qui s'en tire bien ? Qui c'est qui est en tête de ce truc ?
Il y a sans doute quelqu'un en tête, mais ça n'est pas indiqué dans l'article.
D'accord, ok. Donc, c'est l'indice, il a un nom ou...
L'indice de liberté académique.
Ouais, bon, ok. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller chercher l'indice de liberté académique.
Voilà.
Et donc, ça fait un petit moment que ça dure, c'est bien. C'est le principe des indices pour pouvoir regarder ce qui se passe.
On n'est pas bon.
Voilà. Oui, d'accord. En même temps, qui ça intéresse, les travaux des scientifiques, excusez-moi, Madame Henriette.
Petite illustration. qui ne concerne que l'environnement, mais tout de même. Vous avez donc, alors pas de surprise, hein, mais c'est histoire de le dire. Vous savez que le Chili a élu un président d'extrême droite.
Oui, mais bon, là-bas ils sont habitués quand même, ils connaissent. C'est pas une nouveauté, je veux dire. Hein.
Alors là, ils connaissent d'autant mieux que les intentions étaient claires et qu'il s'agit d'un nostalgique de Pinochet. Voilà, lui.
Et donc, vous êtes toujours sur l'indice académique, là ?
Non, pas du tout, mais je suis sur le.
J'allais dire au Chili, oui, ça doit être.
Ça concerne quand même également la science, puisque, donc, avec son arrivée au pouvoir, donc, M. Cast, puisque c'est son nom, a suspendu 43 décrets en faveur de l'environnement. Alors, d'après sa communication, c'est normal, c'est toujours comme ça, quand il y a un nouveau pouvoir, c'est le temps d'évaluer si ces décrets sont quand même bien, bien pertinents, tout ça. Et puis bon, le problème, c'est que l'important, c'est quand même le plein emploi. Hein. Donc voilà. Donc, eh bien, la grenouille de Darwin qui devait être protégée par ces décrets, les parcs nationaux qui devaient être créés, les émissions de centrales thermiques qui devaient
être réduites.
Eh bien, tout ça, ça ne sera peut-être pas possible si ce n'est pas favorable au plein emploi.
Mais il faut, attendez, il y a d'autres priorités, hein, engager des flics et tout ça, le plein emploi, bon, ouais, ok.
Manifestement.
Écoute, ils verront bien au Chili, hein, quand ils n'auront plus rien à bouffer.
Comme vous y allez,
eh ben, en même temps, Edmond. On va bien y arriver à force de scier la branche sur laquelle nous sommes.
Oui, mais très probablement, ça ne sera pas quand on est un seul pays. C'est ça qui va être rigolo.
Ah oui, non, mais d'accord, mais ça... Ce sera d'autant plus ironique pour ceux qui n'auront rien fait. Eh oui, Madame Marietto, alors peut-être ils se diront, ben, nous, on en a profité jusqu'au bout. Ah.
Oui, Monsieur Cast a 60 ans. Hein.
Ah bah voilà, c'est ça. Il se dit oh,
voilà, peut-être que bon.
Et personne lui a dit casse-toi. Bon.
Peut-être pas encore. Peut-être qu'il se dit qu'effectivement le temps que la situation soit vraiment tragique, lui sera plus là.
Ah, yeah. Bon après, il suit un peu l'exemple de son grand voisin, hein, mais bon. Américain, je veux dire, un peu éloigné, mais bon, quand même.
Ah, parce qu'il a un autre voisin qui est intéressant aussi. Bon.
Parce que l'écologie et Donald, c'est quand même, ça fait 4. Hein. Oui, il vous reste quelque chose, Madame Ariette.
Si vous le souhaitez.
Mais bien sûr.
Si nous avons le temps.
Bon, mais il y a largement le temps. Hein. Il va falloir que vous papotiez, Madame Ariette.
Alors, je vous emmène...
On n'a pas M. Kogan, je vous rappelle, je dis à nos auditeurs, malheureusement, voilà, il a d'autres préoccupations en ce moment, c'est dommage, hein, le point culture va être bref.
Ah oui, ça malheureusement, quand M. Kogan n'est pas là.
Non, moi je ne suis pas allé au cinéma, et est-ce que j'ai vu une série qui pourrait intéresser quelqu'un, je ne suis pas sûr.
Bah, moi je peux parler d'une série.
Ah bah si peut-être, vous... allez, on verra. Allez, alors,
elle
est vachement
bien préparée cette émission, ça ouais. Se voit. Je voulais quand même vous parler...
Ne dévoilez pas les coulisses, enfin.
Je voulais vous parler de petites bêtes. Est-ce que vous voulez ?
Ah ben moi j'ai plein de trucs sur les animaux. Alors parlez-nous de qui okay. Vous voulez.
Alors je vous parle de petites bêtes. C'est un article toujours dans Le Monde. J'étais très inspirée par Le Monde cette semaine, qui date du début du mois de mars. Il s'agit d'un article d'Hervé Morin. C'est un article qui évoque donc plusieurs études qui ont été menées tout en Afrique, il me semble. Et ce sont des études qui sont des observations de comportement d'animaux face au feu, aux grands incendies, et qui visent à comprendre pourquoi et comment nos ancêtres, il y a très très longtemps, ont eu l'idée de domestiquer le feu. Et en fait...
Quel rapport avec les petites bêtes ?
Parce que c'est des études qui sont menées sur des animaux pour voir leur comportement sur le feu, par rapport aux incendies.
D'accord. Et à partir de là, ils veulent essayer animaux, de comprendre pourquoi l'homme...
Voilà.
D'accord.
Parce que ces petites bêtes, ce sont des singes.
Ah, voilà. Ben voilà. Oui, mais vous dévoilez la moitié des... Parce que moi, j'étais sur les mulots, voilà. Les trucs comme ça. Je me disais,
Donc, en fait, il y a deux... mais pas que, vous allez voir. Il y a deux espèces pistes qui ont été étudiées. D'accord. Donc, des chimpanzés qui sont dans une région du Sénégal et dans laquelle il y a des feux de brousse de façon assez récurrente. Et également des singes vervés, des singes que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, qui sont en Afrique du Sud, dans une réserve où également il y a des feux de brousse et notamment beaucoup d'éco-buages.
Oui, alors petit chimpanzé, bon, c'est pas si petit que ça quand même. Il y a des singes beaucoup plus petits. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'est-ce qu'ils ont observé ?
Eh bien, ces deux espèces, en fait, ne sont pas apeurées par les incendies. Et ça, c'est assez curieux, puisque la très grande majorité des animaux paniquent quand ils sont confrontés à un incendie. Ce n'est pas leur cas. Ils observent ça assez calmement, manifestement. Ils regardent quelle tournure ça prend et ils ajustent leur comportement en fonction. Et surtout, ils ne s'éloignent pas trop de ces incendies. Ils se protègent évidemment, mais ils ne s'en éloignent pas tellement, puisqu'en fait, ils en exploitent les résultats. Donc, ces animaux, on les a vus chercher ensuite, eh bien, à la recherche sans doute de petits animaux qui auraient été grillés par l'incendie. On les a vus chercher des fruits aussi qui ont été cuits. Et ce que l'on sait en étudiant nos très lointains ancêtres, c'est que la cuisson des aliments a largement favorisé notre développement intellectuel ou cognitif, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une des raisons, pas la seule, mais qui nous a permis d'avoir un si gros cerveau, qui nous sert bien peu, nous sommes bien d'accord. Enfin, le potentiel est là. Et donc, ces petits singes, ou ces singes moins petits, en fait, ont compris que le feu leur permettait de trouver des nutriments de très bonne qualité. Et donc, ils exploitent les produits du feu. Alors, on se dit que c'est peut-être ce qui s'est passé lorsque... alors, c'était pas encore on peut pas vraiment qualifier... c'était pas des hommes tels que... Nous le sommes actuellement. Je m'exprime extrêmement mal ce soir et j'en suis désolée. Mais en tout cas, c'est peut-être le même type de comportement qui nous a amené à vouloir d'abord rester proche des incendies et puis ensuite à vouloir domestiquer le feu. Une des suppositions, c'est que quand il fallait se déplacer dans une haute végétation de brousse, car nous venons de paysages de brousse, nous les humains, c'était probablement très malaisé et surtout très dangereux, puisque les prédateurs peuvent s'y cacher.
Eh oui.
Et certains de ces singes, justement, que nous observons actuellement, préfèrent se déplacer sur des paysages qui ont été ravagés par le feu, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour un, trouver de la nourriture, deux, se protéger des prédateurs. Et un autre animal qui est quand même vachement intéressant, qui est aussi pervers que les êtres humains. Non, pas autant quand même. C'est en Australie, là. Il faut aller en Australie.
Et ça n'a plus rien à voir, là.
Si.
Ah bon ?
Pour voir des milans noirs qui, eux, carrément...
C'est un oiseau, ça.
Oui. Dès qu'ils repèrent un incendie au loin, ils y vont, ils se rassemblent pour s'attaquer aux animaux pas encore cuits, ceux qui fuient l'incendie. Ils se jettent sur les animaux qui fuient l'incendie, puisqu'effectivement, ils vont être concentrés à la lisière de l'incendie. Et surtout, afin d'agrandir leur garde-manger, eh bien, ils s'emparent de branches enflammées et ils répandent de l'incendie. Volontairement.
C'est pas mal, ça. Oui.
Et on se dit qu'effectivement,
ils sont malins quand même.
Les premiers hominines...
Mais ouais, ont peut-être observé ça, ils se sont dit « pas bête !»
Alors, ils l'ont observé, oui, ils l'ont mis en place sans l'observer, mais il est possible, effectivement, qu'ils aient déclenché des feux volontaires. C'est un peu comme la grenade jetée dans le lac. C'est de la pêche facile. Bon, ben là, c'était de la chasse facile. En plus, c'était déjà le barbecue était fait.
Enfin, chasse facile, ça dépend, hein, qui était caché dans les herbes, hein, mais bon. Ok.
Voilà, donc ces études se poursuivent parce qu'il y a un débat scientifique assez actif autour de ben, la maîtrise du feu par l'être humain. C'est un vrai sujet de recherche et les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, donc on cherche.
Parce que personne ne leur a dit. Non mais c'est Prométhée qui a filé le feu aux humains. Ils ont pas de livre, les scientifiques, et qu'est-ce qu'ils font ?
C'est vrai. Heureusement.
Enfin, l'histoire est connue quand même.
Heureusement.
Non mais alors là, les bras m'en tombent quand même.
Là aussi.
Non mais c'est dingue.
Là aussi, c'est un fait bien connu.
Eh ben oui. Enfin, c'est avéré.
Heureusement que vous êtes là, monsieur Edmond.
Il en a assez bavé, le pauvre, après, hein, avoir fait la boulette.
Ah oui, alors là, après, il faut pas être douillé, hein.
Ah,
ça
ben
c'est
non.
Sûr.
Oh là là, c'est dingue. Ça y est, vous en avez fini, madame Henriette ?
Et j'ai encore une histoire de bestiole, si vous le souhaitez.
Non, bah, déchaînée, madame Henriette, hein, ce soir. Hein.
Ah bah écoutez, moi, là, j'étais partie dans mes histoires de biodiversité, de bestioles, voilà.
Bah, écoutez, dépêchez-vous, parce que la biodiversité, il n'y en aura bientôt plus, alors. Profitez-en, tant qu'il y en a.
Ben là, c'est une entreprise de protection qui donne des résultats pas trop mauvais. Ça arrive de temps en temps.
Pour le tigre ?
Non, c'est sur le fleuve Yangtze en Chine. Le marsouin du Yangtze était menacé d'extinction. C'est le dernier cétacé d'eau douce en Chine, puisque son cousin, le dauphin blanc, a disparu, lui. Voilà, malgré les efforts déployés qui ont été tout à fait inutiles. Et
donc là, c'était la pollution, parce que je crois que les fleuves chinois, malheureusement, bon, c'est...
Alors, c'est...
Ils ont une drôle de couleur,
en
des
fait,
fois.
C'est l'ensemble des causes habituelles. De...
Ah oui, restrictions.
Voilà, donc c'est un territoire sur lequel l'animal peine à se nourrir à cause de la surpêche. Un territoire sur lequel il peine à communiquer, et je vous rappelle que ce sont des animaux sociaux, hein, les cétacés, donc ils ont un besoin vital de communiquer entre eux, puisque donc les communications sont perturbées par la navigation fluviale, qui est très importante sur le Yangtze. Également de la pollution chimique, effectivement, du fleuve. Donc, bon, ça fait beaucoup quand même pour un seul animal.
Et donc, vous avez dit que ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Alors, au début, ils ont fait des lâchers de nourriture. C'est-à-dire, voilà, le truc, on enlève des poissons, on remet des poissons. Voilà.
Ah, bon. C'est bien chez chinois, ça.
Non, c'est pas chinois, c'est humain, monsieur. Alors là, monsieur Edmond, je vous rassure tout de suite. Hein, au lieu d'arrêter le dommage,
ouais.
on essaie de mettre une rustine dessus.
Tiens, on n'a plus d'insectes, on va aller polliniser les arbres fruitiers à la main. Ouais.
Donc, vous allez rire, ça n'a pas fonctionné.
Ah bon ?
Donc,
c'est dingue.
À partir de 2021... Eh bien, ils ont décidé de prendre une mesure qui était très douloureuse pour la population locale, puisqu'ils ont interdit la pêche pour 10 ans sur toute la longueur du fleuve.
C'était radical, mais bon, en même temps, voilà, c'est toujours le problème. Hein, quand on exagère, après...
Voilà, l'article indique qu'il y avait 220 000 pêcheurs.
Ah oui, ça concernait beaucoup de monde. Bon, heureusement que c'est la Chine, quoi. Là, ils ont pu les...
Qu'entendez-vous par là ?
Ah ben, on sait comment ça marche là-bas, quand vous êtes contre une décision administrative... Vous pouvez toujours faire un recours.
Donc,
ils ont arrêté la pêche.
Ils ont arrêté la pêche. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors déjà, ça a très bien fonctionné pour les poissons, puisque le volume des poissons a augmenté de 200%. La pêche est interdite que depuis 2021, hein.
Pas mal.
Donc ça va vite quand même.
Oui, mais le thon, regardez le thon, ça avait fait pareil hein, quand ils avaient arrêté de pêcher le thon.
La diversité des espèces a également progressé. Et donc, nos marsouins sont plutôt pas mal. Par contre, la circulation fluviale n'a pas été stoppée. Donc, on a toujours ce problème d'interférence.
Un peu moins, puisqu'il n'y a pas de pêcheurs. Donc déjà, il y a des bateaux en moins.
Ah, il y a une grosse circulation commerciale.
D'accord.
Et également, les usines qui rejetaient des matières polluantes se sont déplacées Je ne sais pas où elle les rejette actuellement. En tout cas, plus dans le Yangtze, puisqu'on protège le marsouin.
Chez un pays voisin, comme ça, c'est mieux.
Écoutez, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. En tout cas, ça fonctionne et la population de marsouins progresse. Et donc, il y a un plan qui est mis en place, un plan sur 10 ans, à partir de cette année, où là, ils vont créer en fait des zones où il n'y aura plus de circulation fluviale.
D'accord.
Ils vont créer des espèces de réserves. Voilà. Et ils espèrent. En parallèle, ils mènent des programmes de reproduction pour la diversité génétique des marsouins.
Et ils espèrent pouvoir les manger bientôt.
Et ils espèrent. Ils ont un objectif de 2000 individus en 2035.
Ah oui, il en restait vraiment pas beaucoup alors.
Non, il en restait pas beaucoup et il y en a actuellement un peu moins de 1500.
D'accord. Ils vont réarmer le marsouin, c'est bien.
Ouais, le réarmement démographique du marsouin. Permettez-moi de vous dire que ce sera pas tout public.
Merci, Madame Ariette. Allez, je vais vous parler rapidement de vos amis. Les corbeaux.
Ah ben tiens, on parlait des milans noirs. Les corbeaux, ouais. Ok.
Les corbeaux, évidemment, qui sont depuis fort longtemps réputés pour leur intelligence. Eh bien, Mathias Claudio Loreto vient de lancer une nouvelle étude qui a duré un petit moment dans le célèbre parc Yellowstone aux USA. Alors, il a mené son étude là-bas parce que, figurez-vous, que les loups y ont été réintroduits au milieu des années 90, après 70 ans d'absence, et qui sont maintenant très bien, et qui se portent très bien. Alors, vous me dites, les loups, mais je croyais que vous alliez parler des corbeaux. Eh oui, mais parce que, qu'est-ce qu'ils font, les corbeaux, nos amis les corbeaux? Eh bien, ils aiment beaucoup les loups.
Eh oui, parce qu'il y a des charognes, peut-être.
Et voilà. Alors, ce qui a intéressé les chercheurs, c'est de savoir... Comment faisaient les corbeaux pour arriver rapidement sur les lieux de repas des loups et en profiter? Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces bestioles, je crois que ça peut, pour chacun, repartir avec 200 grammes de barbac. Donc, quand ils arrivent nombreux, bon, ben, rapidement, voilà, vous avez un petit trou dans la carcasse. Hein. Donc, évidemment, ils viennent se nourrir quand le loup a tué la bestiole. Eux, ils arrivent et puis ils servent aussi. À tel point, d'ailleurs, que dans l'étude, ils ont remarqué que certaines troupes de loups ont un loup spécial, détaché, pour s'occuper des corbeaux.
D'accord.
Et les éloigner.
Un loup de sécurité.
Voilà. Ils ont un videur. Le loup qui vide les corbeaux.
Oui, qui leur dit, c'est bon, c'est pas open bar.
Alors, en tout cas, ce qui intéressait les chercheurs, alors, ils avaient les loups, certains loups étaient équipés de GPS, tout ça, donc ils pouvaient suivre les loups. Alors, ils ont essayé d'équiper les corbeaux. Alors, ils disent qu'ils ont eu quand même beaucoup de mal, parce que c'est un animal très méfiant, que pour l'approcher, visiblement, c'est très, très, très difficile. Et il ne fait absolument pas confiance à l'humain. Donc, ils ont réussi à en équiper certains. Et alors, ils se sont aperçus qu'en fait, les animaux arrivaient à mémoriser des endroits où les loups ont l'habitude de venir chasser sur des zones en kilomètres. C'est absolument énorme.
Alors, il y a pas mal d'études hein, sur la mémoire des corvidés qui est absolument ahurissante.
Alors là, par exemple, ils en ont vu, ils font jusqu'à 155 km dans la journée pour aller de point en point où ils savent que, voilà, ils font le tour de leur petit point, quoi. Et donc, les chercheurs ont été estomaqués vraiment par la taille. Donc, l'un des chercheurs de l'étude dit, John Marzulf, les corbeaux ont toujours fasciné les hommes, mais jamais nous n'aurions anticipé qu'ils puissent stocker dans leur cerveau guère plus grand que notre pouce, des informations couvrant des milliers de kilomètres carrés. Nous les avions sous-estimées.
Ah oui, c'est une grossière erreur.
Ne jamais sous-estimer un corbeau.
Non, mais en plus, les études sur les corvidés, c'est vraiment ancien et voilà.
Eh oui, eh ben, ils continuent, vous voyez, de réserver des surprises. Alors évidemment, ils essayent de chercher, de comprendre comment ce si petit cerveau arrive à enregistrer toutes ces informations. Mais pour l'instant, moi je me demande des fois comment des cerveaux aussi gros arrivent à rien enregistrer. Mais bon, c'est pareil,
oui, effectivement, la question miroir, c'est celle-là, en effet. Les mésanges sont également des oiseaux qui peuvent mémoriser jusque, je crois, jusqu'à une vingtaine d'étapes pour trouver le butin qu'elles ont, qu'on a réservé à leur
sagacité.
Merci.
De rien. Allez, on passe à un autre animal, parce que j'ai bien senti que vous vouliez parler d'animaux ce soir, Madame Henriette.
Mais oui, c'est tellement reposant.
Peau lisse, jaune citron, une large bande noire le long de chaque côté du dos, base du bras, région lombaire et face intérieure du tibia rouge vermillon, du museau à l'anus 20 mm. La grenouille Epipedobates tricolore venait d'être identifiée par Georges Albert Boulanger, grand zoologiste belge, donc qui est mort en 1937.
Oui, il faut pas la tripoter, d'après ce que j'ai compris.
On va y venir. Qui a quand même réalisé, Georges Albert Boulanger, plus de 2500 descriptions d'espèces à son actif. Hein. Il chômait pas, le petit gars. Alors, évidemment, cette grenouille, eh bien, si elle est aussi colorée, c'est pour dire à ceux qui l'entourent, attention, je suis toxique.
Nos limes étant gérées.
Exactement. La grenouille, évidemment, elle a été donc décrite par Georges Albert Boulanger en 1899 dans The Arnoldson Magazine of Natural History, mais elle était connue de longue date des Amérindiens, puisqu'évidemment, c'est un animal qui vit là-bas en Amazonie. Et les Amérindiens avaient bien compris que si on enduisait les pointes de flèches de la mucus toxique de la grenouille, c'était beaucoup plus efficace.
Ne pas se lécher les doigts après ?
Non, il faut éviter. Alors un peu plus tard, on a John William Daly, un jeune biochimiste que ses collègues ont longtemps surnommé l'Indiana Jones du National Institute of Health, l'agence de recherche médicale américaine. Eh bien, il les a étudiés plus précisément, ces grenouilles, si vous voulez savoir pourquoi c'était aussi nocif. Alors là, bah, bravo, hein, ça a été un grand moment de joie puisqu'il a découvert la batrachotoxine, la pumiliotoxine, l'histrionicotoxine. Enfin bon, voilà, les trois familles de toxines parmi les plus puissantes sur Terre.
Ça finit quand même par toxine.
Oui. Ah, mais c'est très efficace. Alors évidemment, dans tout ça, vous allez voir à laquelle on arrive. En tout cas, c'est vraiment des neurotoxiques. Alors en général, c'est tout simple. Ça envoie une fausse information à votre muscle et ça lui dit « Bon, ben maintenant que tu es dans cette position, tu ne bouges plus. » Alors vous voyez, bon, on a besoin de tout un tas de muscles hein, pour vivre. Donc voilà, notamment le diaphragme, tout ça, les trucs-là. Bon, si ça reste bloqué, c'est très embêtant. Et donc en 1974, notre ami John William Daly, eh ben, il ramasse 750 grenouilles quand même. Il essaye d'extraire tout ça, 80 mg de mucus et au final 0,5 mg de la Rolls des toxines, l'épibatidine, 0,5 mg. Alors là, il n'arrive même pas à détecter la molécule qui est à l'origine des troubles et tout ça, parce que les limites technologiques de l'époque ne lui permettent pas, avec aussi peu de matériel, d'y parvenir. Alors il se dit, bon, bah, je vais élever des grenouilles pour récupérer plus de matos. Il essaye, échec total, parce qu'en fait, bah, il a bien réussi à que les grenouilles se reproduisent, mais elles n'étaient absolument plus toxiques. Donc, c'est pas pratique, ça. Oui, vous avez raison de me regarder. Et évidemment, on sait aujourd'hui qu'en fait...
C'est plus sympa pour leur faire des bisous.
Oui, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était ce qu'elles mangeaient qui les rendait toxiques. Parce qu'en fait, elles mangent des petits trucs qui sont, elles, très toxiques. Et alors, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la grenouille, mais elle arrive à ne pas mourir et après à sécréter. Voilà.
Ah ben d'accord. Vu ce que certains autour de moi consomment régulièrement, je me demande si c'est bien prudent de les toucher.
Eh ben oui. Donc, une fois qu'il a raté son élevage, bon, ben, il se dit, ben, tant pis, je retourne en Équateur récupérer une plus grande quantité de grenouilles.
Non, mais là, ça devient obsessionnel. Faut arrêter, je ne sais plus comment il s'appelle, Roger, avec tes grenouilles.
John William Daly.
C'est plus possible, tu vois bien, t'en as trop.
Indiana Jones. Oui, alors, figurez-vous qu'il arrive sur les sites qu'il connaissait. Ah bah, il n'y a plus de grenouilles, c'est des bananeraies maintenant. Eh oui, dommage. Donc, il va en montagne, il trouve les grenouilles, Et là encore, bah, elles ne sont pas du tout toxiques ou beaucoup moins parce qu'effectivement, bah, elles n'ont pas la même alimentation.
Alors que si elles étaient restées à la bananeraie, vu ce avec quoi ils traitaient les bananeraies à l'époque, permettez-moi de vous dire que la toxicité aurait été performante.
Voilà. Bon, bah, tout ça pour vous dire que à des milliers de kilomètres, donc en Équateur, eh bien, les dernières Epipedobates tricolores ben, essayent de survivre sur 6800 km². Mais ça y est, cette espèce a été classée vulnérable. Elle est sur la liste rouge hein, de l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2019. Et que bon, voilà, ça n'a pas l'air de bien se passer pour elle. Hein. Mm. Alors, un dernier mot.
Il en restait suffisamment quand même pour Alexei Navalny.
Exactement, Madame Henriette. L'épibatidine. Alors, ce poison très, très efficace, hein, faut bien le dire. Hein. Vous en mettez là, le gars, il a peu de chances de s'en sortir.
C'est comme Maxwell Qualité Filtre, pas la peine d'en rajouter. Les gens de ma génération se souviendront de la publicité.
Par contre, gros, gros inconvénient, mais vraiment très gros. C'est que ce poison reste très, très longtemps dans votre organisme.
Et oui, alors...
Et ce qui explique qu'effectivement, les Européens, 2 ans après la mort d'Alexis Navalny, en ont encore trouvé des traces dans son corps. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, ils ont légèrement accusé Vladimir Poutine d'avoir fait exécuter son opposant.
Alors, très franchement, c'est quand même que quand on est scientifique, il faut laisser un peu de place au doute. Est-ce que ça pourrait pas être une exposition accidentelle ?
Bah, c'est vrai que lui qui avait été envoyé en goulag, on imagine bien qu'il ait pu rencontrer une grenouille vivant en Équateur. Ça paraît effectivement tout à fait probable, Madame Henriette. Oh, la jolie grenouille ! Que fais-tu, Lou, si loin de chez toi ? Alexei, tu veux pas un thé, plutôt ? Voilà. Non, écoutez, Madame Henriette, il y a un moment, il faut être sérieux. Non, vous avez raison,
alors,
c'est
non,
pas la peine,
non.
Ça sert à rien.
Ben non, si vous êtes sérieux dans ce monde-là, rapidement, vous devenez fou. Donc, c'est pas bien.
Donc, en tout cas, vous avez compris, cher ami auditeur, c'était un petit point prévention. Si vous voyez une grenouille colorée, ne la touchez pas. Parce que, comme toutes les grenouilles colorées, elle est toxique. Et voilà. Ben, je crois qu'on va se quitter. Vous vouliez nous dire 2 mots sur une série ? Non ?
Est-ce qu'on a encore le
conseil, temps ? Oui, vous avez 2 minutes pour faire un petit conseil série sans trop en dévoiler.
Eh ben moi, je vous conseille d'aller voir la série espagnole Céleste. C'est une série qui est sur Arte et qui raconte les derniers jours de travail, la dernière enquête d'une inspectrice des impôts espagnols.
Alors, après la DGCCRF, les impôts, mais Madame Henriette, faut en sortir.
Oui, mais bon, là, c'est le fisc espagnol, donc c'est différent. Et donc, qui enquête sur la possible fraude fiscale d'une chanteuse mexicaine, d'une chanteuse extrêmement connue, qui peut-être aurait, dans l'histoire, détourné, enfin, en tout cas, qui se serait abstenue de payer plus de 20 millions d'euros au fisc espagnol. Et donc, cette série, en tout cas, son sujet, est a priori inspiré des déboires fiscaux de Shakira en Espagne. On ne voit pas Shakira, on ne voit pas beaucoup la chanteuse mexicaine, même si son nom de scène est le titre de la série.
Céleste, donc.
Céleste. C'est une série qui est très bien jouée. Évidemment, c'est en espagnol, donc c'est un vrai plaisir à écouter. Et même si l'héroïne n'est pas du tout sympathique, on ne va pas se mentir, c'est quand même un beau portrait de femme vieillissante qui se retrouve à la fin de sa carrière parfaitement seule.
C'est super, c'est bien vendu, Madame Henriette.
Non, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série.
Vous l'avez compris, ce n'est pas du tout une série pour vous faire aimer les agents du fisc. Hein, ce n'est pas financé par le fisc espagnol.
Alors, oui et non, parce que la personne a des méthodes plus que discutables. Elle est franchement, je vous dis, antipathique. Par contre, elle a le service public chevillé au corps et elle, dans sa tête, chaque fois qu'elle fait un redressement... Eh bien, elle amène de l'argent pour ce qui est important pour les Espagnols, à savoir financer le système de santé, le système éducatif, enfin voilà. Et oui.
Très bien. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Vive le redressement, on y croit tous.
J'ai pas dit ça.
Alors, vive les arbres à zizi. C'est pareil, c'est du redressement aussi.
Oh, monsieur Edmond. Eh bien, cette émission...
Finie comme elle avait commencé.
Voilà. J'espère que les enfants étaient ailleurs.
Quoique, je m'ennuie bien et terminé. À la semaine prochaine.
Il y a à peu près que ça aurait fait rire. Bonne semaine.